talmudique. L'un des textes les plus étonnants de toute la littérature juive est sans doute ce petit livre d'à peine quelques dizaines de pages intitulé « Sefer Yetzirah, le livre de la création en français ». Un livre qui nous apprend que le monde a été créé par le livre, le nombre et le récit. Une formule où la racine « saper » est répétée trois fois, le livre « sefer », le nombre « sefar », le récit « sipour ». Cette idée va imprégner tout le judaïsme jusqu'à nos jours, faisant du peuple juif le peuple du livre ou, selon la formule d'Armand Abécassis, le peuple de l'interprétation du livre. Une idée que Blanchot résumera de manière forte en disant « S'il y a un monde où, cherchant la vérité et des règles de vie, ce que l'on rencontre, ce n'est pas le monde, c'est un livre, le mystère et le commandement d'un livre, c'est bien le judaïsme, là où s'affirme au commencement de tout la puissance de la parole et de l'exégèse, où tout part d'un texte et tout y revient, livre unique, dans lequel s'enroule une suite prodigieuse de livres, bibliothèque non seulement universelle, mais qui tient lieu de l'univers, et plus vaste, plus profonde, plus énigmatique que lui. Une manière de penser qui a aussi permis l'existence d'un judaïsme moderne et laïque, un judaïsme de la lecture et de l'étude, et comme aimait à le dire Amos Oz, de ses ancêtres, chez qui les enfants devaient tous hériter non seulement d'une croyance religieuse, d'un sort collectif, de la marque irréversible de la circoncision, mais aussi de l'empreinte formatrice d'une bibliothèque. Nous avons là une pensée qui s'inscrit dans une tradition où ce sont les mots, les récits et les livres, la littérature et la fiction qui sauveront le monde. Ce que souligne à sa façon le prophète Ézéchiel dans ce verset « Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuilles ne se flétriront point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles seront pour la guérison. » Un verset repris dans l'Apocalypse de Jean de façon un peu différente et qui constitue la conclusion de Fahrenheit 451. Un verset que Rabbi Nachman de Bratslav a interprété ainsi « Ne lis pas les feuilles de l'arbre seront pour la guérison, mais les feuilles du livre seront pour la guérison. » Ne faut-il pas y voir un chemin de guérison des dérives de notre époque et son lot de désinformations, de fausses informations, de contre-vérités, de rumeurs et de légendes qui, de manière collatérale, raniment de vieux démons et, en particulier, ceux de l'antisémitisme. Guérison de la déraison par le détour de la fiction et non par la raison qu'on lui opposerait, car cela resterait totalement inefficace. Une façon de réfléchir à nouveau à la question de Hölderlin en la modifiant un peu, à quoi bon les écrivains, les romanciers, en temps de détresse, à quoi bon la fiction en temps de détresse? Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir une femme et un homme dont toutes ces questions sont le cœur même de leur existence. Anne-Sophie Dreyfus, Gilles Rosier, bonjour.
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 Anne-Sophie Dreyfus, vous avez commencé dans la presse scientifique, puis vous êtes devenue éditrice dans plusieurs maisons d'édition. Gilles Rosier, vous êtes écrivain, auteur de 7 romans dont certains ont été traduits en plus de 12 langues. Vous êtes traducteur du yiddish et de l'hébreu. Vous avez dirigé la maison de la culture yiddish Bibliothèque Medem à Paris pendant 20 ans. Si je rajoute que vous êtes diplômé de l'ESSEC et docteur en littérature yiddish, j'aurais dit beaucoup de vous, mais pas l'essentiel, bien que ce soit implicite dans ce que je viens de dire, à savoir votre passion à tous les deux, le livre, les langues et la littérature. Ce qui permettra de mieux comprendre encore pourquoi vous avez fondé tous les deux, en 2016, les éditions de l'Antilope. Un coup de maître, puisqu'en 3 ans, vous vous êtes imposé dans le paysage éditorial avec un catalogue original, savoureux et puissant, en offrant des livres à l'esthétique sobre et délicate qui sont un véritable plaisir sensuel pour la main qui les ouvre, des livres consacrés à la Jewish literature, comme on dit en anglais, et qui met l'accent sur la fiction. Je sais que c'est une question que l'on vous pose beaucoup, mais pourquoi l'antilope? Pourquoi avoir choisi cet animal comme parrain de votre maison d'édition? En quoi est-ce une signature de votre projet éditorial?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est très importante, c'est qu'on ne voulait pas donner un nom juif à la maison d'édition. Parce que pour nous, la Jewish literature, la littérature juive, même si le mot peut paraître curieux en français, c'est une littérature pour tout public. Et c'était vraiment le grand projet de la maison de mettre à disposition cette littérature à tous les publics, tous les lectorats. La deuxième, c'est qu'on cherchait un nom d'animal. Et l'antilope, c'est un animal gracieux, vif et exotique. Et la littérature juive, pour le public francophone, il ne faut pas non plus se leurrer, c'est une littérature exotique. Et on trouvait que l'antilope allait bien avec la maison.
J'ajouterais une petite chose, c'est qu'on en a découvert après coup que antilope se disait aussi en anglais, antilope, se disait aussi en allemand, antilope, et se disait aussi en hébreu, antilope, et en yiddish, antilope.
Dans beaucoup de langues, effectivement, c'est le même mot, ce qui est bien.
Ce qui est bien pour une maison où il y a beaucoup de livres traduits de différentes langues.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, la littérature juive, c'est un champ mondial, on dit dans notre charte, sur les 5 continents. Et c'est vrai que contrairement à d'autres maisons d'édition qui se focalisent sur la littérature américaine ou brésilienne, etc. Nous, il y a une ligne claire, mais en tout cas, c'est une vision du monde par le focus de l'existence juive.
Alors, vous avez dit en anglais, mais je le dirais en français, littérature juive, c'est une catégorie plutôt anglo-saxonne. Est-ce seulement une littérature qui parle de juifs ou de judaïsme ? Certains auteurs, d'ailleurs juifs eux-mêmes, et dont les héros de leurs livres sont juifs, refusent l'expression d'écrivain juif, de romancier juif ou de littérature juive. Je pense particulièrement à Philippe Roth.
Alors ça, c'est une grande question qui, sans doute, et je le sais pour en avoir discuté avec eux, traverse aussi le questionnement d'un lieu comme le Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Qu'est-ce que l'art juif ? Qu'est-ce que la littérature juive ? Et alors évidemment, au début de la maison, les gens nous disaient « il faut être juif pour publier dans votre maison ». La réponse est « non ». Et d'autres auteurs disaient « ah ben je suis juif, ça tombe bien, je vais pouvoir publier chez vous ». Et la réponse est « non aussi ». C'est-à-dire qu'il faut aussi que la thématique ait un rapport proche ou lointain, hein. On ne l'envisage pas de manière étroite avec l'existence juive. Et d'une manière ou d'une autre, c'est pas forcément les héros qui sont juifs, mais ça peut être au contraire des personnages qui observent quelque chose autour d'eux de l'existence juive.
Une existence juive qui est complexe. Je me rappelle de cette histoire qui se passe en Pologne, on va dire vers 1930 par exemple. Un jeune juif sort de son shtetl, son petit village, pour passer quelques mois à Varsovie. Au bout de 3 mois, il revient dans son village et réunit tous ses amis pour leur raconter son expérience. Vous savez, Varsovie est une ville extraordinaire. Quelle richesse, quelle diversité. J'ai rencontré un juif orthodoxe qui ne parle que de Talmud. Toute la journée, il médite les textes de la tradition et dès que vous lui adressez la parole, il inaugure son propos par une citation biblique. Quand il n'étudie pas, il prie. J'y ai rencontré aussi un juif complètement athée qui ne veut pas entendre parler de Dieu et qui veut qu'on le laisse tranquille avec toutes ces histoires à dormir debout qui n'ont de sens que pour les naïfs et les enfants. J'ai aussi rencontré un juif chef d'entreprise, il dirige des usines avec des centaines d'employés, il roule dans de magnifiques voitures de luxe. J'ai rencontré aussi un juif communiste enflammé qui ne parle que d'égalité entre les hommes et de lutte et de suppression des classes. Marx est son Dieu et le capital sa Bible. Alors tous ses amis le regardent avec étonnement, mais qu'y a-t-il de si extraordinaire, lui demande-t-il. Varsovie est une très grande ville, c'est la capitale, il y a plusieurs centaines de milliers de juifs, c'est normal que tu aies rencontré des juifs si différents. Et le jeune homme sourit et les regarde avec malice, leur dit « vous n'avez pas compris, c'était le même juif ».
Alors, en l'occurrence, c'est vrai, mais c'est aussi dans le, bon, on a 16 titres au catalogue pour l'instant, 10-12 auteurs, et c'est aussi la cohabitation de tous ces auteurs avec des parcours extrêmement différents. Pour citer quelques exemples, vous avez Sabil Goussoub, avec Le Nez Juif, qui est un jeune auteur franco-libanais, qui aborde des problématiques d'identité à partir du nez, mais dont un des chapitres du livre s'appelle « Libérer la Palestine ». Vous avez Jonathan Berg qui a grandi dans une colonie juive des territoires de Cisjordanie et qui parle de problématiques de cet ordre entre la vie en Cisjordanie et la vie à Tel Aviv. Vous avez Igor Ostakovitch qui est un auteur polonais contemporain qui imagine des zombies juifs qui sortent des caves de Varsovie de nos jours. Et c'est aussi un des... Et puis je vais pas vous citer tous les auteurs, bien sûr, mais c'est aussi un de nos projets. c'était de sortir des clichés. Vous parliez du monde contemporain dans lequel, eh bien, la littérature, c'est ça aussi. On ne dit pas la même chose dans un article de journal et dans 200, 300, 400 pages de littérature. Et certains textes que nous avons publiés, nous étions touchés par ces textes parce qu'ils permettaient de creuser une problématique de manière profonde et de manière non manichéenne. C'est le cas Igor Ostakovitch. Bon, le cliché, c'est tous les Polonais sont antisémites. Eh ben, avec le texte d'Igor Ostakovitch, on se rend bien compte que, évidemment, tous les Polonais ne sont pas antisémites. Et quand Igor Ostakovitch exprime dans son livre et dit en public qu'il a l'impression d'avoir un membre fantôme parce qu'il manque 300 000 personnes à Varsovie et 3 millions de personnes dans son pays, ben c'est, il est la preuve que ces clichés n'existe pas.
C'est ce que j'ai ressenti en lisant Le Nez Juif, par exemple, parce qu'il faut dire aussi que ces livres sont pleins d'humour, comme l'exergue, par exemple, de ce livre que vous avez cité, de Sabil Goussoub, qui commence par cette citation de Serge Gainsbourg, « Juif n'est pas une religion, aucune religion ne fait pousser un nez comme ça ». Et bon, moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais je pense que c'est ça permet, comme vous venez de le dire, la fiction littéraire, comme l'humour, n'a-t-elle pas ce rôle de critique des préjugés et des stéréotypes, et en particulier, comme vous venez de le dire, stéréotypes de l'antisémitisme qui reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène, comme c'est souvent le cas en période de crise. Comme je le disais au début dans ma petite présentation, nous savons aujourd'hui que l'on ne pourra jamais combattre la déraison par la raison, mais la fiction en a peut-être le pouvoir. Et j'ai l'impression que c'est particulièrement prégnant dans la littérature yiddish. Je pense à Shalom Aleichem, Gilles Rozier ou Anne-Sophie Dreyfus.
Alors, Shalom Aleichem, évidemment, c'est un immense écrivain yiddish qui a fait de l'humour son fer de lance, et on se demande même si est-ce que Shalom Aleichem a utilisé l'humour juif ou ce n'est pas Shalom Aleichem qui a créé l'humour juif, tellement c'est en symbiose l'un avec l'autre. Et effectivement, mettre en parallèle ces deux textes, Sabil Goussoub et Shalom Aleichem, notamment dans le dernier qui est paru, Les Mille et Une Nuits de Krouchnik, où en fait il a l'art de mettre en scène des personnages qui sont dans des galères et on rit à toutes les pages, c'est-à-dire qu'il y a une autodérision de la part des personnages, une tendresse qui passe par l'humour qui est extraordinaire. Et finalement l'humour, c'est une arme. Sabil Goussoub, par exemple, qui écrit un texte, c'est quand même un jeune Libanais arabe que tout le monde prend pour un juif parce qu'il à cause de son nez, et on se demandait comment le texte allait être reçu, et en fait lui aussi se demandait, et en fait il n'y a eu aucune réaction d'agressivité par rapport à ce texte, des réactions primaires disant t'es passé de l'autre côté ou des choses comme ça, et parce que l'humour est totalement désarmant, on peut rien répondre à l'humour. Spiel der Passer mit Hoffleuer. Meistens lief im Wasserrabie, denn im Passer fiel sein Trauer. Oh, ich bin im Passer mit sein Trauer, ich bin im Passer mit sein Trauer.
Yitzhak Perlman au violon avec les Klezmatics dans un classique du klezmer, une musique qui swing au rythme de la langue yiddish, une sorte de jazz manouche, nostalgique et espiègle à la fois. J'ai toujours pensé que le klezmer, c'est le yiddish de la musique, le jazz du yiddish. Une musique où la note qui sera jouée n'est jamais prévisible, mille fois la même ritournelle, mille fois unique. Une musique riche de mille notes messianiques, notes attendues qui ne viennent jamais, notes inattendues que l'on n'espérait plus. N'est-ce pas là une orientation de la littérature que vous cherchez à faire connaître? et que vous présentez dans votre catalogue, Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rosier, ne peut-on pas parler d'une littérature klezmer sans que ce terme soit réducteur?
Alors, pour une fois, un de mes amis qui est musicien classique est allé à un stage de musique klezmer. Et je lui dis comment ça s'est passé. Il m'a dit, tout ce que j'ai appris au conservatoire, j'ai été obligé de le désapprendre. Alors, je ne sais pas si c'est la littérature juive, c'est la même chose. Est-ce que tout ce qu'on a appris dans la littérature classique, les grands auteurs, il faut le désapprendre? C'est une question. Il faut le désapprendre pour lire de la littérature juive. J'ai tendance à penser, quand on lit Philippe Roth, c'est un petit peu le cas, malgré tout, même s'il ne souhaite pas qu'on fasse rentrer dans la question de la littérature juive. Sholem Aleichem, c'est une évidence. C'est un auteur tellement atypique dans sa manière de voir les choses. Anne-Sophie, je ne sais pas ce que tu en penses.
Moi, je suis d'accord, mais je me demandais si Sholem Aleichem, qui a écrit en yiddish, ne s'adressait pas essentiellement, justement, à des lecteurs juifs.
Alors, bien entendu qu'il s'adressait à des lecteurs juifs, mais quand il nomme une de ses nouvelles qu'on a traduite, Gittel Pourishkevitch, en fait, Pourishkevitch, c'était le nom d'un grand membre du Parlement russe et un des plus grands antisémites du Parlement russe. Et en fait, Gittel, qui a besoin de trouver une exemption de service militaire pour son fils, elle essaye de monter tous les échelons de l'administration, elle finit par aller voir Pourishkevitch. Et du coup, tous les juifs l'appellent Gittel Pourishkevitch. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui réagissant sur les sites, les réseaux sociaux, a dit « Mais enfin, comment est-ce que Sholem Aleichem a pu appeler un de ses textes du nom d'un grand antisémite ?» Ben, c'est justement ça.
Ce renversement. Oui. Alors, on parle du yiddish, c'est une langue pleine d'humour qui me rappelle une autre histoire juive. C'est un juif américain à New York, du quartier de Brooklyn. Il est en procès et doit comparaître devant le juge. Lorsqu'il se présente, il s'aperçoit qu'on lui a attribué une interprète. Or, furieux, il se plaint au juge. « Vous croyez que je ne parle pas assez bien l'anglais pour vous? Sachez, monsieur le juge, que j'étais toute ma jeunesse dans l'une des meilleures écoles de la ville. Ensuite, j'ai étudié à l'université de Harvard. Alors, j'espère que vous comprenez à présent l'inutilité de cet interprète. » Le juge se penche alors vers l'interprète et lui demande en yiddish « Qu'est-ce qu'il a dit ?»
Oui, bah écoutez, nous, bon, évidemment, nous sommes une maison qui traduisons beaucoup. On fait traduire de l'hébreu, du yiddish, du polonais, de l'anglais. On a bien entendu aussi des auteurs français. Mais la question de la traduction est centrale.
Alors justement, moi, donc là, je teste souvent cette histoire et je suis jamais déçu, la preuve. Mais le yiddish, donc une langue que vous traduisez vous-même et dont vous publiez des traductions, je pense à ce très beau livre, très émouvant livre de Yitzhak Rudashevski, intitulé « Entre les murs du ghetto de Vilno, 1941-1943 », témoignage écrit par un jeune homme d'à peine 14 ans, journal traduit du yiddish par Batia Baum, célèbre traductrice qui a reçu pour ce livre le grand prix de la Société des gens de lettres. Il y a chez vous non seulement un rapport à la traduction, mais aussi aux traductrices et traducteurs, ces personnes qui sont un peu les invisibles de la littérature.
Alors, ça, c'est à Anne-Sophie de répondre, puisque c'est elle qui travaille sur les textes avec les traducteurs.
C'est vrai qu'on a la chance de travailler avec des traducteurs assez exceptionnels et d'avoir en ces personnes-là des éclaireurs, quelque part. C'est-à-dire que les traducteurs, souvent, nous apportent la connaissance d'un texte. Et si le texte, si ce qu'ils nous en racontent ou s'ils arrivent à nous convaincre, c'est vrai que non seulement on a envie, nous, à l'Antilope, de publier le texte, mais on a envie, évidemment, de le publier avec eux, c'est-à-dire avec l'éclaireur traducteur qui nous a apporté le texte, qui a été le cas en effet de Batia Baum quand elle nous a apporté le journal de Yitzhak Rudashevski, qui est une œuvre absolument exceptionnelle, littéraire, et en même temps qui raconte quelque chose ô combien importante.
Alors, ce qu'Anne-Sophie ne vous dira pas, puisqu'elle est modeste, c'est qu'on a plusieurs traducteurs chevronnés qui nous ont dit « Jamais j'ai eu un échange tel avec une éditrice, un éditeur », parce qu'on ne les lâche pas, les traducteurs. C'est-à-dire que ce qui est très important dans une traduction, c'est qu'à la fois le texte soit bien entendu fidèle à l'original, mais que le lecteur ait la sensation de lire un ouvrage français et non pas un ouvrage traduit. Et donc nous sommes extrêmement attentifs à ça. Anne-Sophie fait un travail avec le traducteur ou la traductrice, et à la toute fin, une fois que j'ai bien oublié le livre, je relis les épreuves et à nouveau, on fait des suggestions au traducteur.
Comment vos lecteurs ont pris ce livre.
Il
y a des bons lecteurs et des mauvais lecteurs. Les bons lecteurs
savent
que lorsque Atalia prononce ces mots, ils doivent apprendre quelque chose au sujet d'Atalia et pas au sujet d'Israël. Les mauvais lecteurs lisent Crime et châtiment de Dostoïevski et pensent que Dostoïevski est en train d'assassiner des vieilles dames. Ou ils lisent Lolita de Nabokov et pensent que Nabokov est un pédophile. J'ai des bons lecteurs et des mauvais lecteurs partout.
Nous venons d'entendre la voix d'Amos Oz, cet immense écrivain qui nous a quittés il y a maintenant une quinzaine de jours, dans cette interview réalisée par Christophe Onodibio avec la voix française de Michel Zlotowski. Amos Oz nous parle des bons et des mauvais lecteurs. Quel est Gilles Rosier et Anne-Sophie Dreyfus en tant qu'écrivain et en tant qu'éditrice et éditeur tous les deux? Pour vous, votre relation au lecteur, et quel est pour vous le bon lecteur?
Oh, moi, je me permettrai pas de me prononcer sur ce sujet. La lecture est vraiment un processus extrêmement intime, très subjectif. Les lecteurs projettent quelque chose dans leur lecture. Ce que je, en tant qu'écrivain, là, je vais parler. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que parfois, des lecteurs ont vu dans mes livres des choses que moi-même je n'avais pas vues, c'est-à-dire qu'ils sont allés rechercher du côté de mon inconscient. Après, effectivement, on est parfois un petit peu déçu par la lecture que certains ont fait de vos textes, et la question de savoir si Nabokov est pédophile, ça, bien entendu, et c'est ce qu'on aime à l'Antilope, c'est laisser toute liberté à nos auteurs et ne pas rentrer dans des questions idéologiques. C'est-à-dire que il faut pas penser que nous, en tant qu'éditeurs, on pense la même chose que nos auteurs, mais c'est leur liberté, et à partir du moment où un texte nous plaît, même s'il peut y avoir des problèmes idéologiques dans ce texte, ce n'est pas un écueil pour nous, pour le public.
Moi, j'aurais envie de dire que, pas seulement en tant qu'éditrice, en tant qu'Anne-Sophie, je suis lectrice aussi, et je ne sais pas si... J'aime beaucoup ce que dit Amos Oz, mais je ne sais pas si je suis une bonne lectrice ou une mauvaise lectrice. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'il y a des moments dans la lecture où forcément, on a envie de lire quelque chose et on projette ce que soi-même on aurait envie de lire ou d'entendre. Et qu'en fait, quand une fiction nous emporte, on sort justement de cette vision-là de « j'ai envie de lire ça ». Je me laisse emporter par l'histoire. Et en l'occurrence, quand la fiction nous emporte, elle nous permet aussi justement de voir, de lire des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais qui nous permettent de comprendre aussi quelque chose, de découvrir quelque chose aussi.
C'est ça, il y a une forme de surplomb qui permet d'entendre les différents points de vue, et peut-être que la fiction est précisément là pour entendre ces multiples voix, cette polyphonie.
Absolument.
Contrairement à un essai où on est embarqué, comme on dit, dans une seule version idéologique d'un propos. Et peut-être c'est là la force de la fiction en général.
Et puis vraiment, on accède à des mondes. Le livre de Ludovic Herman Wanda, Prison. Ludovic Herman Wanda, c'est un garçon français d'origine camerounaise, né en banlieue, qui a été dealer, qui a fait de la prison, et son roman est très autobiographique, et ça a été la découverte d'un monde et d'une sociologie par la fiction. Et quand il nous parle de libération, parce que la prison, il parle pas seulement de Fleury-Mérogis, il parle de la banlieue et de la question linguistique comme une prison en banlieue. Et lui dit, et son héros dit, je me suis libéré de la langue de la banlieue en accédant à la langue française qui me permet d'accéder à la connaissance, et par la précision de la langue française, ça me permet de draguer une fille en étant précis et pas seulement en lui disant, je vais pas le paraphraser, mais enfin en lui disant des grossièretés, disons. Et ça nous a ouvert des horizons extraordinaires. On a trouvé ça lumineux comme pensée.
Un très beau livre, effectivement, et j'ai aimé la présentation de l'auteur. Né en 1981, Ludovic Herman Wanda a grandi en région parisienne dans la violence et la brutalité. Incarcéré à Fleury-Mérogis pour trafic de drogue, il y entame des études, désormais diplômé en maths et en philosophie. Il est aussi bilingue, français des banlieues et français littéraire.
Voilà, voilà, c'est précisément ça.
J'ai trouvé ça. Et effectivement, et là, peut-être, on trouve à l'intérieur même du roman la question, une de vos préoccupations importantes, qui est la question de la langue. Et ça ouvre, c'est-à-dire que la question de la traduction, c'est pas simplement la traduction entre différentes langues, entre le français et l'hébreu, le français, l'anglais et le yiddish, mais la langue française elle-même, de manière interne, est déjà une langue où il y a plusieurs langues, et le passage de l'une à l'autre est un travail de traduction qu'on sent très 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 bien dans ce roman.
D'habitude, on met des glossaires yiddish, hébreu ou termes de tradition juive dans nos livres, et dans Prison de Ludovic Herman Mwanda, on a mis un glossaire dans lequel il y a quasiment que des termes wesh-wesh, de termes de banlieue.
Oui, je vois, c'est par exemple, rasner, c'est récompense, des choses simples, un ref, c'est frère, mais il y a des choses qu'on ne connaît pas.
Moi, je ne connaissais pas disqueter.
Disqueter.
Tu m'as disqueté.
Et disqueter, qui veut dire...
Bah, tu m'as trompé, quoi, tu m'as grugé.
Voilà, mais enfin, je laisse les...
Et en plus, ça répond... à l'existence du yiddish, en fait. La langue des banlieues, le wesh-wesh, c'est un créole, de la même façon que le yiddish est un créole des langues germaniques. Et donc, c'est très juif, finalement, la langue des banlieues.
En général, je sais que c'est compliqué pour un éditeur, des éditeurs, de conseiller un livre, car les éditeurs aiment tous les livres de leur catalogue. Mais si je vous demandais à l'un et à l'autre, par quel titre commencer, que répondriez-vous, Anne-Sophie ?
Alors là, j'irais dans votre sens absolument tous les livres de notre catalogue. Oui. Bon, évidemment, quand vous dites tous les livres de notre catalogue, c'est vrai que chaque livre, on s'est tellement engagé dedans. On a choisi le manuscrit, on a travaillé, on a pris un tel plaisir à le préparer que oui, on l'aime comme ça. Alors après, évidemment, les derniers sont toujours les mieux servis, mais dans tous nos livres.
Mais donnez quand même un titre pour...
Du coup, je vais être obligée de vous dire le dernier, parce qu'en effet, celui qui a été publié cette semaine, qui vient de sortir, qui s'appelle « L'ours qui cache la forêt » de Rachel Chalita, qui en plus est le deuxième roman de l'israélienne Rachel Chalita, qui a été traduite par Gilles Rosier, de l'hébreu. Et bien, j'ai particulièrement de l'affection pour lui, puisque c'est le deuxième texte de Rachel Chalita, et que Rachel Chalita a écrit, et l'auteur de Comme deux sœurs, qui est le premier roman que nous avons publié à l'Antilope. C'est le premier roman de l'Antilope, c'est le premier roman de Rachel Chalita, c'est le premier livre qui a été traduit de l'hébreu par Gilles Rosier. Donc j'ai beaucoup d'affection pour lui, et c'est un magnifique roman.
Et nous sommes très habités en ce moment par ce texte, puisque Rachel Chalita viendra en France pour la sortie de son livre du 27 janvier au 3 février, et que nous lui avons concocté un petit programme de rencontres en librairie, en centre culturel, et que donc nous allons être quasiment nuit et jour avec elle pendant une semaine.
Avec cet ours qui cache la forêt. Alors de quoi parle cet ours qui cache la forêt ?
Alors c'est une histoire de gens américano-israéliens, ça passe en Nouvelle-Angleterre, donc aux États-Unis, et qui ont tous un lien avec Israël. Et c'est l'histoire de six femmes autour d'une forêt, avec des secrets, d'où l'ours qui cache la forêt. Et c'est un livre très sensible, avec une très belle réflexion sur l'émigration, l'exil, la relation à la terre natale, et qui propose une triangulation entre Israël, les États-Unis et la génération d'avant qui venait d'Europe orientale, de Lituanie.
Donc il y a encore question des langues. Du voyage des langues.
Ah oui, il y a des langues, oui, bien sûr, l'hébreu, le yiddish,
l'anglais,
bien sûr, bien entendu.
Et la question de l'exil au centre de cette réflexion.
Oui, parce que finalement, quand j'ai lu le manuscrit, en fait, les Israéliens ont une relation tout à fait particulière avec leur terre natale. Un Français qui habite à Los Angeles, il ne se pose pas la question toute la journée de savoir si un jour il retournera en France. Les Israéliens, même quand ils ont décidé de plus jamais y retourner, c'est une question qui est toujours présente à leur esprit. Et il y a aussi la question de se dire, j'ai quitté ma terre natale alors que mes parents avaient quitté la leur pour s'installer sur cette terre qui est devenue ma terre natale. Donc c'est des préoccupations très complexes.
Vous voulez dire qu'il y a une forme de culpabilité ?
Culpabilité ou pas, mais de présence permanente. Et nous, on aime cette force, cette complexité.
Et complexité
cette singularité des Juifs aussi.
Oui. qu'on retrouve dans les autres romans. Alors, lequel autre roman, Gilles Rosier, Anne-Sophie a proposé donc L'ours qui cache la forêt. Et vous, qu'est-ce que vous nous proposez?
Alors bon, pour ne fâcher aucun de, de nos auteurs, non, je plaisante. En fait, je citerai un texte qui a été un choc pour moi lorsque j'ai lu le manuscrit. Et justement parce que je pensais que je ne publierais jamais un texte de cet ordre. Et même en tant qu'écrivain, je ne souhaitais pas aborder ces sujets de cette manière. C'est Transport d'Yves Flanck, un texte qu'on a reçu par mail, par la poste. Et qui se passe dans un wagon au départ de Drancy en direction de on s'imagine où, et qui est un texte d'une force extraordinaire qui mêle Eros et Thanatos. Ça n'a pas toujours été très bien interprété par certains lecteurs, justement, mais je trouve que c'est la juxtaposition de questions érotiques et de questions de mort dans son texte, dans un wagon vers Drancy, qui est très fort, et de l'onirique et du réel. De Drancy, pardon. Et qui mêle à la fois l'érotisme et la mort, et aussi l'onirique relié à l'érotisme. Pas qu'on pense qu'il y a des rapports érotiques dans ce wagon, bien entendu, mais en tout cas, une des enfermées de ce wagon s'échappe du wagon en se remémorant une relation d'amour et érotique qu'elle a eue avec un amoureux. Et c'est un texte d'une grande force.
Merci Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rosier pour le partage de cette passion du livre, pour le plaisir qu'apporte chaque titre que vous éditez, des livres qui font rire et pleurer à la fois, rêver, des livres qui nous invitent à la réflexion, à la critique de soi et des autres, à l'amour aussi, à la joie en tout cas, des livres qui ouvrent des portes d'un cœur intelligent. Bon vent aux éditions de l'Antilope, à vos auteurs et vos traducteurs et traductrices. Merci encore Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rosier.
Merci Marc-Alain.
Merci beaucoup Marc-Alain Waknin.
C'était Talmudic, une émission de Marc-Alain Waknin et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Delphine Baudet, à la réalisation Dany Journeau. Coltouve, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.